Il paraîtrait que voir des meufs à gros seins en string dans One Piece, ça passe crème.
J'ai même entendu dire que voir des meufs à gros seins en string dans des hentai, c'est vraiment un truc de pervers.
Je m'appelle Jade.
Je suis Mina.
Et vous écoutez l'épisode 72 du N'importe qui.
Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax.
Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
Oh, mais c'est joli ce que vous me faites voir là.
Si on faisait une petite partouze.
Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
Pour cet épisode, on se replonge dans l'univers merveilleux des hentai, ces mangas à caractère hautement pornographique. Après un premier épisode sur le sujet, on vous propose trois nouveaux hentai à mettre tout en haut de votre bibliothèque, bien cachés des regards indiscrets.
Depuis 10-15 ans, la culture japonaise s'est énormément démocratisée dans les pays occidentaux, en particulier en France. Et c'est assez fou de se dire que Japon et France s'inspirent l'un l'autre, le Japon en nourrissant ce fantasme du Paris rococo versaillais et en l'embrassant avec l'incroyable Lady Oscar, la France en ayant créé le fameux syndrome de Paris. Mais qu'est-ce que le syndrome de Paris, ou en japonais, le Paris Shokugun ? Eh bien, c'est tout simplement un choc psychologique qui atteint certains Japonais lorsqu'ils se rendent compte qu'en fait, Paris se rapproche davantage de Gare du Nord que du château de Versailles. Un trauma bien connu et qui commence à se répandre auprès des touristes américains grâce au médiocre, débile, détestable Emily in Paris. Mais j'ai envie d'être de mauvaise foi et de vous raconter mon syndrome de Tokyo, ou plus précisément, mon syndrome du hentai. Tout commence en janvier de l'an dernier, où je réserve mon billet pour mon premier voyage au Japon, prévu en septembre pour mon anniversaire. Et je suis turbo-heureuse, je prépare tout. Et une liste de choses que je veux ramener, dont le synchro Graal, un hentai. Entre-temps, j'entretiens une relation avec un chum qui part au Japon en mai et me ramène parmi plusieurs cadeaux, un hentai. Un beau hentai avec des tentacules, des futanari, bref, je ne suis que joie. Entre-temps, je réalise que ce chum est hyper toxique et qu'il avait ramené des cadeaux à toutes les ouzes qu'il courtisait et dont je n'avais bien entendu pas connaissance. Alors autant que grande amoureuse des symboliques que je suis, je fous le hentai dans le sac de litière de mon chat et direct à la poubelle. Parce qu'après tout, moi aussi je vais partir à Tokyo et I can buy myself hentai. Vient le fameux départ, septembre, je m'envole pour le Japon, direction Tokyo. Et bordel, c'était tellement bien. Essayez d'y aller au moins une fois dans votre vie si vous le pouvez. Une semaine après mon arrivée, je me suis familiarisée avec la ville. Il est temps de me mettre en quête de hentai de qualité. Mon amie qui m'accueille, la merveilleuse Kim, m'emmène dans le quartier où je pourrais trouver mon bonheur, Nakano. C'est comme une grande rue couverte sur plusieurs étages, remplie de boutiques de figurines, de librairies spécialisées dans le manga et de shops pour otaku. On se dirige dans une première librairie qui a plusieurs rayons hentai et on commence à feuilleter ce qui nous tombe sous la main. Et problème, tout de suite, des images d'enfants. On change de livre plusieurs fois, sans succès, puis on va dans une autre librairie. Même résultat, des petites filles, des petits garçons, beaucoup trop souvent. On rechange, toujours la même chose. On s'en va sans hentai, mais je pousse le vice et j'y retourne quelques jours plus tard en me disant que merde, j'ai du mal fouillé. Eh ben non, et là le terrible syndrome du hentai a frappé à ma porte. Le lolicon est toujours aussi présent dans la maison mère. C'est quoi le lolicon ? Eh bien c'est un genre de hentai interdit en Occident aujourd'hui, heureusement j'ai envie de vous dire, qui consiste à mettre en scène des rapports sexuels avec des enfants, soit de la pédopornographie. Voilà ! Et je tenais à faire ce petit billet non pas pour dire que le hentai c'est de la merde, caca, faut bannir, mais pour vous prévenir qu'on peut tomber bien plus souvent qu'on ne le pense sur ce genre de contenu. Comment c'est possible, me direz-vous ? Eh bien, l'excuse de la plupart des auteurs, c'est qu'en réalité, il s'agit d'une personne bien plus âgée qui a l'apparence d'un enfant, et s'est complètement éclatée au sol. Ne faites pas l'amalgame, tous les hentai ne sont pas lolicon, et en France, vous en trouverez plein de qualités qui sauront vous faire frétiller. Je suis donc rentrée sans hentai, mais avec 8 kilos de yukata et kimono dans mes valises, des artbooks, des chapeaux et une multitude de figurines. Comme quoi, le syndrome du hentai est parfaitement compensable avec une addiction au shopping. Dieu merci. Tandis que les Japonais, eux, resteront traumas des Parisiens blasés, de la saleté des rues de la capitale et du métro qui pue la pisse. En même temps, fallait pas inventer le lolicon.
reproche à Akira la trop grande violence dans les dessins, dans l'histoire.
On va parler aujourd'hui d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est la bande dessinée japonaise qu'on appelle les mangas.
Voilà.
Moi, ça me fait peur. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très peur.
Ah, oui, oui. Bon. J'aime beaucoup le moment où moi, ça me fait peur. Et en fait, cette peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est, voilà, il y a quelque chose qui arrive avec des codes qu'on ne comprend absolument pas. Et ça fait peur.
Mais il y a quand même ce point commun dans la plupart des bandes dessinées japonaises qui est la violence. C'est peut-être d'ailleurs culturel pour eux, non ?
Une véritable usine d'images, vite dessinée, vite lue, de la BD jetable à un prix dérisoire. Sur du papier recyclé, dans un format poche, elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence.
Bon, c'est un peu pervers, quoi. Des visages très enfants avec des corps de femmes.
Ouais.
Mais
ceci dit,
c'est un choix, quoi.
Il y avait vraiment ce côté, c'est une culture contemporaine étrangère qui vient d'un pays dont on ne connaît rien. Tout ça fait peur, donc il faut qu'on dise que ça fait peur afin que de diaboliser ça. Et c'est une chasse aux sorcières, et c'est un réflexe humain qu'on a eu depuis des années et des années. Et c'est, les médias se sont jetés à pieds joints dans cette mare, quoi.
Avant de se lancer dans nos lectures, Mina, est-ce que depuis l'année dernière, parce que notre dernier épisode sur les hentai remonte à l'année dernière, tu as acheté des hentai, tu as continué de lire et de consommer du hentai?
Oui, j'ai continué parce que avec toi précisément, on allait à la Musardine pour faire un nouveau stock en fait de hentai. Donc j'ai un petit peu consommé, pas énormément. Et vraiment, j'ai plus consommé là par rapport à la sélection qu'on a fait. Et on n'a pas mis tous les hentai qu'on a lus depuis le premier épisode, on ne les a pas tous mis là. Mais j'ai beaucoup lu du coup pour préparer cette émission. Et en fait, à chaque fois que j'en lis, ça me redonne envie d'en lire encore plus. C'est-à-dire que j'en ai lu un petit peu ponctuellement depuis la première émission, mais pas assez à mon goût finalement. Je trouve que ça mériterait que j'en achète encore plus. Mais le budget et la place n'est pas illimité malheureusement. Et toi, est-ce que tu as continué d'en lire après la première émission ?
Je n'ai jamais arrêté depuis mes 16 ans. Ça date pas de la dernière émission, non, moi j'ai continué comme toi, la Musardine. Je ne repars jamais de la Musardine sans acheter un petit manga. Donc pour rappel, juste parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas de Paris, qui nous écoutent. Donc la Musardine, c'est une librairie qui est située à Paris, à côté du Père Lachaise, et qui est spécialisée, en fait qui est une maison d'édition, qui est spécialisée dans la littérature érotique et ou pornographique. Donc c'est vrai qu'ils ont un endroit physique où c'est très très pratique pour faire nos stocks, parce que les mangas... Si, j'ai vu que maintenant on peut trouver des hentai sur la Fnac ou sur Amazon, ce genre de choses. Je vois que maintenant, quand même, ces collections qui sont mises en avant par la Musardine commencent à être trouvables de plus en plus sur des grandes surfaces, en tout cas sur les sites internet. Mais c'est vraiment l'endroit où, si vous voulez vous fournir en hentai, voir une grande sélection sur des choses qui sont très safe, c'est-à-dire pas de lolicon, c'est-à-dire de la littérature avec des mineurs, etc., vous êtes plutôt bien tombé. Donc si vous êtes sur Paris, encore une fois, on vous recommande de vous rendre à la Musardine pour faire votre petite emplette de hentai. Et peut-être qu'on rappelle également, peut-être que vous n'avez pas écouté notre premier épisode sur les hentai et que vous n'avez aucune fiche idée de ce que c'est. Donc Mina, qu'est-ce que c'est le hentai ?
Eh bien, les hentai, ça va être des mangas. Donc les mangas, je pense que vous savez ce que c'est. Ce sont des BD japonaises. Et dans les mangas, il y a plein de catégories qui sont différenciées. Les plus connues, ça va être les shonen, qui sont les mangas pour les jeunes garçons d'action qu'on va voir partout, bah, type One Piece, Naruto et compagnie. Il y a des seinen, il y a des shoujo pour les filles. Et il y a la catégorie des hentai, qui sont vraiment les mangas pornographiques. On a parlé dans le premier épisode aussi des ecchi, qui sont pour le coup des œuvres érotiques, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de scènes explicites. Mais en tout cas, nous, on va vraiment s'attarder sur cette émission au hentai, donc ça va être vraiment avec des scènes de sexe explicites, dessinées, voire, pour certains, censurées, comme au Japon.
Oui, c'est vrai que dans notre sélection, je trouve notre sélection peut-être un peu moins hard que celle de l'année dernière, c'est-à-dire que là, on est sur 3 hentai, et sur les 3 hentai, on en a 2 de censurés, et dont un qui n'est pas si hard que ça. Donc je pense que pour débuter, là, on va peut-être vous donner des tomes qui pourraient être plutôt intéressants. Et on va commencer avec le hentai qui s'appelle Tokyo Confidential. C'est une série en 4 tomes qui est actuellement terminée. Donc si jamais elle vous intéresse, vous avez 4 tomes, l'histoire complète. Elle est scénarisée par Kasuya Hideo et dessinée par Azuki Kaoru.
C'est sorti en 2007 au Japon par l'éditeur japonais Lead. Et en France, c'est sorti en 2021 par l'éditeur français Dynamite, donc qui en fait est un label de la maison d'édition La Musardine, qui a ce label Dynamite qui va éditer tout ce qui est bande dessinée. Et ils ont dedans la collection Seiko, qui va être tous les hentai. Et donc, ils ont édité cette série en 2021. En tout cas, nous, on a lu que le tome 1, et c'est celui dont on va vous parler dans cette émission. Il fait 208 pages. Et ce qu'on va appeler, en tout cas il est catégorisé, j'ai vu sur les sites, comme un seinen érotique. Donc on n'est même pas vraiment dans du hentai, on est plus dans du ecchi. Et en tout cas, il a été vendu tel quel au Japon par l'éditeur Lead en tant que seinen érotique.
Pour résumer un petit peu l'histoire, c'est super intéressant parce que c'est vrai que je me suis posé la question en lisant en lisant le manga, de me dire, alors il y a du cul, et il y a du cul, en veux-tu, en voilà, mais en même temps, l'histoire est plus importante, enfin, très importante par rapport à l'érotisme, à tout ce qu'il peut y avoir comme acte sexuel, c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Et on va se retrouver au Japon du 19e siècle, pendant l'ère Edo, avec un homme, en tout cas un ancien samouraï, j'ai pas très bien compris de quelle classe il était, donc je suis désolée s'il y a des inexactitudes, mais en tout cas quelqu'un qui est d'une famille un petit peu noble, entre guillemets, qui décide de se mettre à la retraite, et qui a un fils qui est marié avec une jeune femme, et malheureusement son fils va décéder, et il décide de garder sous son aile la jeune femme avec laquelle il va se passer une relation plus ou moins sexuelle, d'amour, voilà, peu importe. Je pense que le tome 1 creuse pas encore assez la relation, mais il décide de la prendre sous son aile pour partir à Edo, qui est l'ancien Tokyo, pour voilà, aller refaire sa vie. Et il va s'en suivre nombre de péripéties sexuelles, politiques, culturelles. C'est vraiment très bien, en tout cas, si je peux donner tout de suite un petit avis, moi j'ai beaucoup aimé, il y a des choses sur lesquelles je voudrais revenir, mais globalement j'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup l'univers et j'aime bien parce qu'on apprend plein de trucs sur cette époque.
Ouais, carrément, en fait je pense que c'est le point le plus fort de ce manga hentai ecchi seinen, c'est qu'en fait on est vraiment dans une plongée d'un Japon historique en fait, donc je pense que c'est assez fidèle, enfin en tout cas pareil, je ne m'y connais pas parfaitement en culture japonaise, histoire japonaise, donc peut-être qu'il y a des inexactitudes également dans le manga, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fidèle, et en tout cas nous en tant que lecteurs, bah, ça nous plonge quand même dans un univers avec, en termes de costumes, de décors, d'ambiance, de mise en scène, on est vraiment dans une plongée de l'histoire, donc c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans ce manga. On est clairement dans du step. Moi, je m'attendais pas du tout, en fait, à ouvrir une histoire qui parle de step, parce qu'on est vraiment sur le beau-père et la belle-fille. Et voilà, ça on accroche ou pas, mais je trouve que après les dessins sont assez soft. Et c'est vrai que c'est ce que tu évoquais au début, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un titre hentai 100% pornographique, ou en tout cas 100% explicite. C'est-à-dire que je sais pas si c'est de la censure volontaire ou pas, mais en tout cas, c'est pas. Il y a une censure dans le sens où on ne voit pas explicitement les sexes. Il y a des scènes de sexe qui durent plusieurs pages, qui sont détaillées, mais on ne va pas avoir de dessin sur une bite, sur une pénétration, sur un vagin. Et en fait, ce n'est pas une censure dans le sens où il va y avoir des traits comme à la japonaise sur les bites, mais ça va être soit l'angle de dessin fait qu'en fait la jambe cache la pénétration, ou que ça va être des fois un peu illuminé tout en blanc, donc en fait, ce n'est pas dessiné avec précision le vagin. Mais du coup, ça permet d'être finalement quand même un titre assez facile à aborder et pas trop agressif au premier regard.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a vraiment un choix, comme tu dis, dans le cadre. Et sinon, c'est blanchi, en fait. Vous avez trois types de censure dans le hentai animé. Vous avez la barre noire, la fameuse, qu'on va voir incessamment sous peu. Vous avez le pixel. Le pixel, c'est plutôt pour l'animation, parce que bon, pixeliser du hentai, tout de suite, ça devient un peu chum. Moi, quand j'en lis, moi, je n'aime pas du tout. Et vous avez la technique du blanchiment, où en gros, ça va être juste blanc. Il ne va pas y avoir de traits particuliers sur le pénis, sur le vagin. Et je trouve que c'est la technique la moins agressive quand on est lecteur et qui passe le mieux. C'est la technique qu'on avait, par exemple, dans Step Up Love Story.
Oui, mais en fait, disons que c'est une censure qui est faite par l'auteur lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de faire des angles tels quels et des éclairages qui font qu'on ne voit pas par rapport à des traits qui sont rajoutés en fait par l'éditeur lui-même. Donc du coup, ça s'accorde mieux avec l'histoire. Du coup, ça a plus de sens, c'est plus joli à regarder que des vieux traits noirs qui sont comme ça posés sur des bites pour faire genre « Eh, c'est censuré, regardez pas ».
Ouais, c'est une censure douce d'une certaine manière, et c'est aussi très intelligemment pensé, parce que justement, là où par exemple le prochain tome, bon, je spoil en avance, le prochain tome, il y a de la barre noire et ça m'a saoulé, mais là où en fait c'est tout doux, t'as pas cette envie de regarder ce qu'il y a en dessous, tu vois, d'une certaine manière. Moi, quand il y a des barres, je fais putain, ça me saoule, je sais que c'est dessiné, je sais que c'est là, retirez ces barres, bon sang. Là, tu vois, je fais, c'est intelligemment bien fait, ça participe également au cadrage, au dessin, même dans le style de trait, c'est super intéressant. Donc c'est vrai que visuellement, Le manga est super beau, je trouve ça. La petite faiblesse que je vais trouver à ce manga, c'est que toutes les meufs se ressemblent, et que, en gros, vous allez avoir deux personnages féminins qui vont vraiment être un peu les héroïnes de ce manga. Vous allez avoir le personnage de Kazu, qui est le personnage de la belle-fille, qui va s'installer avec son beau-père, et ils vont rencontrer leur voisine, qui s'appelle Yae. Et franchement, j'arrivais pas à faire la distinction entre les deux. Vraiment, c'était assez compliqué, à part parfois les expressions, quand ça prenait du plaisir. Elles ont à peu près les mêmes corps, elles ont à peu près les mêmes coiffures, les mêmes têtes, les mêmes traits. Ouais. Donc quand c'était pas des gros plans, entre guillemets, sur les visages, j'avais trop du mal à les différencier.
Ouais, ça va, c'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé là, sur le coup, j'ai pas l'impression que j'avais du mal à les différencier. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, bah, notamment surtout cet aspect plongé dans le Japon, de l'ère Edo, et aussi même en termes de sexualité, en fait, on représente aussi une sexualité...
De l'époque.
Typiquement japonaise, de l'époque, je sais pas, mais en tout cas typiquement japonaise, puisque quand même un des actes sexuels principaux, ça va être l'utilisation de la pratique du shibari, donc le fait de ligoter.
C'est l'acte de ligoter avec des cordes vraiment très spécifiques, conçues pour ça.
Voilà, et du coup, parce que du coup, ça va être le personnage de Yae, qui est une domestique, qui s'occupe d'un jeune maître, qui fait partie aussi des personnages principaux du manga. Et du coup, j'ai pas trop compris, mais en gros, Yae est soumise à un homme envers qui elle a sûrement des dettes et qui va en fait l'utiliser pour pratiquer le shibari en public et qu'elle devienne en fait son modèle. Donc il va y avoir pas mal de scènes aussi de shibari, de soumission. Elle va aussi entraîner, faire découvrir le shibari à Kazu, la belle-fille. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi sur la représentation de l'érotisme à la japonaise.
Et même la relation de step, j'avais peur que ça me cringe au début parce qu'on saute très très vite dans le step. On t'explique qu'en gros, Kazu a été marié avec le fils du beau-père pendant seulement 6 mois et qu'il est mort de maladie malheureusement. Et vraiment la relation où, tu vois, je crois que c'est vraiment dans les 20 premières pages où elle arrive dans la salle de bain, enfin dans la salle de bain, dans les termes, et qu'elle est en mode « beau papa, massez-moi les seins !» J'ai fait « oh là là !» Je suis en manque, massez-moi les seignes. Après, ce que j'aime bien, c'est que le beau-père, c'est pas un personnage dégueulasse. Tu vois, c'est un beau-père qui a quand même la classe, qui est très cultivé, qui a abandonné en fait ses lettres de noblesse de samouraï. Je suis pas sûre qu'il soit samouraï, mais en tout cas, ses lettres de noblesse de guerrier, entre guillemets, pour devenir peintre. Ce qui est aussi très intéressant dans la culture japonaise, où tu vas explorer justement tout l'imaginaire du dessin érotique, voire pornographique pour l'époque. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est développé, c'est pas juste un vieux pervers, c'est pas quelqu'un qui est là pour profiter d'elle, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Leur relation est très intéressante.
Ouais, franchement. Mais en fait, il y a un développement des personnages qui est assez intéressant, finalement. Chacun a un petit peu sa place, chacun a un petit peu sa propre histoire qui avance parallèlement, indépendamment des uns et des autres. Donc ça, c'est assez chouette. Le seul truc un petit peu creepy, c'est que quand même, en fait, je sais pas si tu te souviens de ce détail, mais donc la belle-fille, en fait, la mère de la belle-fille, c'était l'amour d'enfance du beau-père.
J'ai pas compris. Oui, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que c'est sa fille ou pas? C'est ce que j'ai pas compris.
Non, c'est pas sa fille. Non, c'est pas sa vraie fille. C'est vraiment sa belle-fille. Mais c'est juste qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'amour de son enfance, qui est la mère de la belle-fille. Donc, un petit peu glauque. Mais en vrai, le manga en lui-même n'est pas hardcore, n'est pas violent. Il y a une scène qui s'approche un petit peu du viol quand même. Enfin, clairement une scène de viol, en fait.
T'as des scènes de viol, et c'est sur quoi j'aimerais bien revenir. Ouais.
Mais je veux dire, en tout cas pour le reste, on est quand même sur des trucs où globalement ça va, c'est pas trop hardcore. Bah déjà, on voit pas explicitement les sexes, donc c'est forcément moins violent. Et je trouve que les scènes de shibari, il y a toujours façon des rapports de domination-soumission, c'est un petit peu toujours comme ça en vrai dans les hentai.
Ouais,
parle des scènes de viol.
Non, mais les scènes de viol, bah tu vois, en fait, c'est. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est du viol soft parce que un viol.
Non, bien sûr, c'est pas un viol soft.
Mais c'est vrai que dans la narration, en fait, c'est Kazu qui va être victime de ses actes à chaque fois. Et en fait, il défend ça dans la narration en mode « Oh, elle dit non, mais regarde comme elle est excitée !» Tu sais, c'est un peu ce double discours, je suis « Non, stop avec ça !» Et ça peut être des actes, en fait, assez divers et variés. Par exemple, la première scène, ça va être par des femmes en plus. C'est Kazu qui va aller chercher de l'eau au puits. Et en gros, elle va se retrouver confrontée à 3 voisines qui ont entendu dans la nuit le fait que Kazu, qui habite avec son beau-père, bah voilà, ils ont fait du bruit pendant la nuit parce qu'ils ont ked. Et en gros, elles sont en mode « Non, là, c'est la honte de faire ça, on va te punir. » Et en gros, elle la déshabille en exposant son vagin et en lui disant « On va te mettre un gland dans la techa pour te punir, etc. » Et tu vois, j'étais en mode « Wow, c'est ça, escaladate very quickly, dis donc !» Enfin... Voilà, il y a eu ce premier truc avec ensuite qui déclenche une scène érotique où Kazu se fait sauver par sa voisine Yae qui va lui pratiquer un cunnilingus pour lui retirer le gland, etc. Ce qui est très érotique. Mais tu vois, c'est quand même un peu violent, mine de rien. Et t'as également cette scène, moi, c'est celle qui m'a le plus choquée d'une certaine manière. Ça va être une scène où Kazu va devoir chercher un médicament, je ne sais plus dans quel contexte, et elle se retrouve face au maître que c'est Ryae, donc sa voisine, et c'est un jeune homme, je pense, qui a à peu près 15-16 ans, qui a le feu au slip. Très clairement, on va le dire comme ça, il a le feu au slip. Et il voit Kazu, dont il est tombé fou amoureux et qu'il désire, il va lui sauter dessus tout simplement en essayant de forcer un rapport sexuel avec elle. Et en fait, ça va arriver plusieurs fois où ça va être désamorcé en mode « Oh, je suis une prostituée, tape, je te tape sur la tête parce que c'est pas bien. Oh, c'est moi, Yaï, tape, je te tape sur la tête. Oh, arrête, espèce de petit pervers. » Et je fais « Oh, c'est pas drôle quand même. » Même la manière dont c'est mis en scène, moi, ça me mettait pas très bien, honnêtement.
En fait, c'est un petit peu tourné en mode « Finalement, c'est rigolo, c'est pas très grave. » Évidemment, c'est grave. Mais ils essaient un petit peu de compenser ça aussi par une espèce de solidarité féminine entre Yaï et Kazu, j'ai l'impression. Où en fait, Yaï va beaucoup sauver la mise de Kazu, va être toujours en train de la secourir et de la soutenir et dénoncer, entre guillemets, les agressions qu'elle subit. Même si au final c'est quand même dessiné de manière érotique et à exciter le lecteur, donc évidemment ça c'est le côté un petit peu plus problématique, mais j'ai l'impression qu'ils essaient un petit peu à chaque fois de désamorcer ça, soit avec de l'humour, soit avec une pseudo solidarité féminine.
Ouais, mais ça reste quand même problématique, tu vois, c'est la première tentative de rapport sexuel ou de viol, on va l'appeler un peu viol, par le petit voisin, c'est désavancé en mode « Oh, il lui a refilé des morpions !» Et oh là là, ouais. Je sais même pas, je me suis posé la question, est-ce que les morpions existaient à cette époque-là? Sans doute, peut-être.
Oh, je pense. Oh, non, mais de toute manière, moi c'est une vraie question, est-ce que... Alors, il y a énormément de mangas de hentai qui sortent, donc évidemment, il y a des trucs sans violence, mais en vrai... La quasi-majorité, en tout cas quasiment tout ce que j'ai lu, il y a forcément des violences qui sont dessinées de manière érotique.
Bien sûr.
Franchement, très peu de fois, j'ai lu un truc en me disant « Putain, tout était safe et sain, tu vois. »
Ouais, mais dans un sens comme dans l'autre, parce que bon, on parle pas que des femmes, hein. Souvent aussi ça va tomber sur des hommes qui se font un peu forcer la main, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette notion, on va pas parler forcément de viol, mais de soumission, comme tu dis. Qui est toujours plus ou moins présente, pas dans tous les hentai, mais dans beaucoup de hentai. Et c'est vrai que je trouve ça trop dommage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et je pense que je vais aller acheter la suite parce que j'ai trop envie de savoir. Enfin, j'avais un peu feuilleté les autres tomes et vraiment, ça commence, il y a des scènes d'action et tout ça, il y a des complots, il y a des trucs de mafia, ça a l'air vraiment bien, l'histoire est vraiment cool. Donc je pense que je vais acheter la suite, mais j'espère qu'il y aura un petit peu moins de ces scènes de viol un peu désamorcées. Je préférerais un truc vraiment, entre guillemets, une vraie agression où quelqu'un se fait sauver plutôt qu'un truc qui est à destination d'un peu exciter les gens. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr.
Mais sinon, enfin, je recommande quand même. Enfin, de certaine manière, sachez où vous mettez les pieds. C'est pour ça qu'on vous explique un petit peu ce qu'il y a dans les hentai. Mais de manière générale, c'est vraiment une toute petite minorité. Et le manga reste hyper bien. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon hentai et chi, peu importe comment vous voulez le catégoriser. Mais moi, je trouve que d'un point de vue narratif, c'est bon. Le trait, le dessin est super joli. D'ailleurs, l'auteur a sorti un autre hentai qui s'appelle Pleasure Island, en tout cas le dessinateur, qui a l'air vraiment très, très bien dans la même lignée également, qui se place d'un point de vue aussi historique. Il a l'air très bien. Je pense que je vais l'acheter aussi. Donc, ouais, je trouve que c'est une belle découverte quand même. Moi, j'étais contente de lire.
Ouais, belle découverte aussi de mon côté. Et je trouve que c'est un manga qui est assez élégant déjà dans le sujet. Enfin, dans le sujet, dans le côté historique qu'il aborde, je trouve que c'est assez élégant et le côté aussi un petit peu censuré, finalement, ça lui donne un aspect un petit peu chic, un petit peu classe, qui est pas déplaisant, franchement, pour un manga où il y a pas du liquide qui explose de partout, tu vois. C'est un petit peu plus élégant, plus raffiné, et je trouve que c'est un bon premier truc si on veut se lancer dans le manga, si on arrive à passer outre les scènes qu'on vient de détailler qui sont un peu plus problématiques.
Et ben moi, tu vois, j'aurais plutôt tendance à conseiller la deuxième lecture dont on va parler immédiatement, qui s'appelle Elven Bride, ou en japonais Erufu no Yumeiri, qui est très très cool, qui a un one-shot, donc ça veut dire vous achetez votre tome, vous avez toute l'histoire, qui est alors dessiné et scénarisé par Endo Okito, et qui est sorti au Japon en 2012 et en 2019 en France, et qui va d'abord prendre plutôt un parti fantaisiste, en tout cas dans sa narration.
Pour revenir un petit peu sur l'édition japonaise, en fait, c'est l'auteur qui publiait les chapitres un petit peu par-ci par-là dans des magazines. Et donc ça, c'est à partir de 2012. Mais en tout cas, c'est à partir de 2016 qu'il y a eu une compilation qui a été éditée au Japon par l'éditeur GOT. Et en France, du coup, en 2019, on a pu avoir cette édition deluxe, en plus avec une couverture rigide magnifique chez Hot Manga. Et ce qui est trop bien, en plus, dans cette édition deluxe, c'est qu'il y a 220 pages et 44 pages en couleur. Et vraiment, les couleurs sont magnifiques. Et en termes de genre, on est sur, cette fois-ci, du pur hentai, avec des scènes explicites, gentiment censurées, entre guillemets, avec des traits noirs un petit peu grossiers, malheureusement, qui peuvent un petit peu gâcher la lecture.
Il faut savoir que l'auteur Endo Okito, c'est quelqu'un qui est très connu dans le hentai, et c'est quelqu'un qui est très connu. Alors je ne sais pas si c'est un homme, je soupçonne plutôt que ce soit une femme. Au vu de la narration et au vu des dessins, je me suis rendu compte que j'avais lu d'autres hentai, même pas que des hentai, mais de cette personne qui est très présente sur les internets. Et c'est quelqu'un qui est très reconnaissable parce que Yel, on va dire Yel, dans le doute, a un trait vraiment magnifique, c'est du dessin très raffiné, très alambiqué, et qui prend encore plus son sens parce que nous allons suivre les aventures d'un couple qui n'est pas comme vous et moi, puisque nous allons suivre l'histoire de Kanaya, qui est un homme japonais, moderne, un jeune homme, qui se marie avec Noruno, je pense, en japonais, qui est une elfe. Et en gros, on va suivre un petit peu le quotidien de ce couple non conventionnel qui va essayer de faire un enfant. Mais bien entendu, Kanaya va devoir résister aux multiples tentations, à savoir la sœur elfe, la maman elfe, les succubes. En vois-tu, en voilà, donc ça va pas être un voyage de toute épreuve pour lui, mais en tout cas, c'est l'objectif, un petit couple qui s'aime et qui veut faire un enfant. Et c'était trop bien, franchement, j'ai incroyable. Trop kiffé, c'était génial. Et en plus, c'est du hentai vanille, pourquoi je le recommanderais peut-être en premier si vous voulez essayer du hentai. C'est original, c'est un peu fantaisiste, les dessins sont magnifiques. Comme a dit Mina, les pages couleurs, c'est sublime. Les choix de palette de couleurs sont juste incroyables. Et c'est très vanille. On est sur du sexe vraiment très très vanille de manière générale. C'est très mignon, on est dans limite de la romance.
Ouais, c'est... Alors je dirais pas que c'est soft parce qu'on est quand même sur... voilà, c'est du bon porno. Mais c'est vrai qu'on est sur des scènes de sexe beaucoup plus douces et globalement assez saine, même si on joue toujours un petit peu sur cet aspect domination-soumission et peut-être un petit peu si finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a tout un lore qui se construit à travers ce hentai. C'est-à-dire qu'on a donc ce personnage de Norn et de Kanaya qui vivent leur vie de jeunes mariés, qui ont des scènes de sexe assez classiques où ils essaient de faire un enfant. Mais en plus de tout ça, en fait, on va avoir des chapitres où on va nous présenter la mère, où on va nous présenter une succube qui va vouloir séduire Kanaya et qui va arriver à ses fins, et où on va vraiment jouer avec tout l'aspect, en fait tout ce qu'on a construit aujourd'hui autour de ces personnages fantastiques, féeriques, de la succube qui va un petit peu contrôler l'esprit de Kanaya, qui va plus à réussir à se contrôler alors que lui il a envie de rester fidèle à sa femme, mais en même temps c'est trop bon de faire l'amour avec cette succube. Donc c'est, enfin franchement le gros plus de ce hentai, c'est tout ce qui développe autour des univers. Enfin je sais que toi et moi, on aime bien les trucs qui sortent un petit peu de la réalité. On aime bien les trucs qui proposent de la fiction, vraiment du fantastique, de l'imaginaire. Et en fait, là, on est enfin plein dedans, quoi, avec des elfes, c'est trop bien. Et notamment une scène de sexe avec la mère, parce que la mère, c'est un peu une déglingo qui débarque dans le pays, qui débarque au Japon pour retrouver sa fille, et qui en fait va se retrouver arrêtée à l'aéroport. Parce que elle a des armes, parce qu'en fait ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a tout un passé par rapport à Norn, qui en fait était une mercenaire dans son pays d'avant, et du coup la mère aussi c'était une mercenaire, donc elle débarque à Tokyo avec genre plein d'épées, donc elle se fait arrêter par la douane, et en fait elle va utiliser de sa magie pour faire que les deux douaniers vont faire l'amour ensemble, elle va inverser leur sexe, c'est-à-dire que la douanière va avoir un énorme pénis, donc on va commencer à jouer sur
futanari.
Et franchement, c'était trop bien. Moi, j'avais jamais vu de futanari en hentai, et enfin, j'avais vu que en animation, quoi. Donc, ça aborde vraiment plein de sexualités différentes. Je n'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, ça aborde quand même plein de sujets fantastiques assez intéressants. Ça développe un univers, et c'est le gros plus de ce manga, quoi.
Ah mais oui, l'univers est vraiment super bien. Et ce qui est cool, ce qui est vraiment malin, c'est d'avoir intégré vraiment cette part de fantasy dans un Japon qu'on connaît. Bon, vous n'êtes pas japonais, vous ne m'écoutez pas du Japon, ou si vous m'écoutez, je pense Kim, tu dois m'écouter. Mais c'est trop bien d'avoir en fait mêlé cette fantasy dans un monde qu'on connaît, très moderne, très très voilà, pas décalé, parce que d'habitude les hentai que je lis fantasy, c'est vraiment du Donjons et Dragons. Oh là là, t'as la magicienne qui est bonasse, qui va se taper le chevalier, ou qui va se faire prendre en leu-leu par des gnomes ou des orques. Tu vois, c'est vraiment, on est dans un truc fantaisiste très très assumé. Là où je suis contente, en fait, c'est un peu des tranches de vie entre guillemets avec de la fantasy dedans, mais hyper bien intégré et sans renier l'aspect fantasy. C'est-à-dire que Norn se remémore souvent tous ces passages où avant elle était chevalière, mercenaire, ou c'était une femme d'action, là maintenant c'est une femme mariée qui essaie de faire un enfant qui est rangé. Et il y a plein de trucs qui reviennent par rapport à ça, et c'est vraiment smart et les personnages sont hyper attachants.
Le seul petit reproche, si je devais lui en faire un, ce serait le fait que comme ça vient à la base de différents chapitres qui étaient publiés dans des magazines, il n'y avait pas forcément de cohérence au début, à part une cohérence visuelle, en fait, et les personnages. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un rassemblement des chapitres. Et l'autrice ou l'auteur a créé un petit peu une cohérence au fur et à mesure. Donc, des fois, on sent que ça n'a pas trop lien. Il y a des sauts dans le temps qui ne sont pas trop logiques. Il y a des trucs où... Enfin, voilà, si on s'attend à une histoire vraiment très cohérente, faut pas vraiment s'attendre à ça, quoi. Voilà, faut pas que ça dépende, que vous attendiez ça et que vous dépendez de ça pour aimer un truc. Faut juste se laisser porter. Des fois, il y a des trucs qu'on comprend pas trop. C'est pas très grave. Au moins, c'est beau, c'est excitant et c'est doux. Et il y a quand même une histoire un petit peu qui est racontée. Mais voilà, ne vous attendez pas à un truc hyper cohérent du début à la fin. En revanche, gros gros point positif pour ce manga, c'est qu'à la fin, il y a un petit texte qui est très intéressant et je trouve très important et qui apparaît trop peu, voire jamais dans d'autres éditions. Je lis ce qui est écrit. « Les scènes présentées dans ce manga n'observent pas les règles de prudence sexuelle et nous vous déconseillons fortement de suivre cet exemple. Portez des préservatifs en toutes circonstances. » Et t'es là, bah putain, c'est bien en fait, parce qu'on te rappelle quand même que c'est des scènes parfois un petit peu hard, où effectivement il n'y a pas de protection. Et c'est, voilà, c'est deux lignes. Et là, il apparaît à la fin du manga, donc je trouve ça un petit peu con. Je me dirais franchement, à ce niveau-là, mettez-le au début, au moins ça avertit les gens, et après ils lisent et ils interprètent comme ils veulent. Mais je trouve que c'est vraiment un petit texte qui devrait être beaucoup plus présent dans toutes les éditions de hentai, parce que je trouve que c'est important, tout comme il devrait parfois y avoir en début de vidéo porno un petit message d'alerte ou voilà, de précaution en disant que voilà, c'est de la fiction et rappeler que faut pas reproduire les trucs entre guillemets et que voilà, les préservatifs c'est important et il faut se protéger. Donc ça, c'est un gros petit plus.
Ce qui se fait en plus, j'ai l'impression, dans le porn mainstream, je vois ça de plus en plus, vraiment des messages au début des vidéos, de gens qui disent « voilà, c'est fait par des professionnels, ne reproduisez pas ça chez vous, ces personnes sont consentantes, ne faut pas faire ça ». J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de prise de conscience et c'est vrai que ça fait du bien en fait, de lire ça et que ça permet aussi de prendre du recul sur l'œuvre que tu viens de lire. Mais en tout cas, Even Bride, on vous le recommande vivement, je pense, tant bien pour le fond que la forme. Je vous recommande également, moi personnellement, le travail de Endo Okito, qui est vraiment fantastique. Vous pouvez trouver très facilement tout son travail sur Internet, parce que malheureusement, je crois pas avoir vu beaucoup de ses mangas publiés en France. Malheureusement, s'il y en a plus, franchement, je les achèterai. Et le livre est juste magnifique. Vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque sans aucun souci. Ça passe crème. L'édition française est vraiment superbe. Donc voilà, moi, je recommande grandement ce hentai.
Et on va passer... Ah, du plus hard, du plus classique, ouais. Du hentai.
Du cul.
Avec le hentai qui s'appelle Redhead X Brunette, ou en japonais, Aitoku Musou. Pardon pour mon accent. L'auteur-dessinateur, c'est Neko Koremitsu, qui est donc au scénario et au dessin. Au Japon, il est sorti en 2022, édité par HIT, H-I-T. Et en France, il est sorti cette année chez Dynamite. Donc comme on précisait tout à l'heure, le label... d'édition de BD érotique par la Musardine dans la collection Seiko.
Et on va retomber dans un genre qu'on avait déjà beaucoup analysé lors de notre précédent épisode sur les hentai, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur plein de short stories dans ce manga, plein de petites histoires qui sont alors plus ou moins liées, selon ce que je lis chez les éditeurs, par la corruption, résister à la tentation, mais en fait, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et en gros, ça va être plein d'histoires un petit peu comme ça, de personnages qui vont avoir des dilemmes moraux et qui, spoiler alerte, vont toujours choisir le cul. Et franchement, alors, j'ai beaucoup aimé. Je crois que l'année dernière, on avait fait Domo, je crois que c'était ça et qu'on avait énormément aimé. Et là, je trouve les histoires hyper audacieuses et je trouve l'histoire, la première histoire, hyper hard. Et après, le reste est un peu moins hard. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
ou
c'est
pas
vrai qu'il commence assez fort.
Ah non, mais le premier est trop bien. En fait, on va vraiment suivre en fait, des streameuses. En plus, c'est des milieux qui me parlent et j'adore ça. On va suivre des streameuses qui voilà, vont toujours de plus en plus loin pour satisfaire les clients. Et franchement, c'est drôle. Mais franchement, la première histoire était tellement hard. J'ai fait waouh, est-ce qu'on le passe vraiment? Le reste était un peu moins hard, entre guillemets, où on tombe sur. La meilleure amie de ma petite amie est trop bonne, mais oh non, elle s'est endormie. Oh non, la meilleure amie me saute dessus. Oh non, je fais l'amour avec la meilleure amie, mais oh là 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 là. Voilà, c'est que des trucs comme ça, assez classico-classique finalement. Mais il y a deux, trois histoires qui sortent du lot, dont la première avec des streameuses vraiment complètement déglingos qui est trop bien. Ah ouais, moi, j'ai vraiment aimé. Elle est très hard, c'est très hard, mais j'ai vraiment beaucoup aimé.
Bah, en fait, je trouve que c'est ce recueil en fait de hentai est assez contemporain dans certains thèmes. Enfin, déjà, bah, le premier, ça parle quand même de cam girl, de streameuse, donc on est vraiment dans un sujet très actuel. Et un deuxième truc aussi que j'ai trouvé pas mal, c'est la quatrième histoire, très précisément, que j'ai trouvé fantastique, avec une application. Puisqu'en fait, on va suivre une étudiante qui arrive toujours en retard à l'école et qui, il faut absolument qu'elle trouve une solution, donc elle demande à sa meilleure amie de lui conseiller quelque chose. Et elle va lui conseiller une application de réveil qui est apparemment super bien notée sur l'App Store. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va télécharger cette appli. Au début, elle se dit ouais, « c'est quoi cette arnaque, quoi, je télécharge une appli pour mettre un réveil, enfin, ça n'a aucun sens, mais bon, de toute façon, il faut qu'elle tente le tout pour le tout, parce que là, elle est au bout de sa vie. » Donc elle cale son réveil à 5h30, elle s'endort, et en fait, quand l'heure du réveil va s'approcher, elle va commencer à se sentir très excitée, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce avec elle, quelqu'un qui va la toucher, qui va lui parler, qui lui dit de se réveiller. Et en fait, on va dessiner un homme sans les détails de son visage, en fait, comme un espèce de fantôme, mais en fait, dans sa tête, puisqu'il n'y a vraiment pas d'homme, hein, c'est vraiment en fait, l'application qui va créer en fait, une présence pour elle faire l'amour, avec qui faire l'amour, et c'est un orgasme qui va la réveiller. Et donc en fait, ça, on va suivre un petit peu, après c'est des histoires courtes, hein, donc ça ne dure pas non plus des plombes, on va suivre un peu plusieurs matins comme ça, et ça finit, elle finit par être tellement obsédée et accro à cette application qu'elle finit par confondre rêve et réalité. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez, assez cool d'intégrer un truc un peu contemporain avec un téléphone, et du fantastique aussi un petit peu, parce qu'on est sur un truc, un espèce de fantôme. Et c'est pareil, il y a une deuxième histoire où c'est une histoire de fantôme, mais dans des objets pour adultes. Enfin, c'est genre un mec qui se branle tout le temps, et en fait... Au Japon, il y a ce qu'on appelle des tsukunogami, qui est un esprit qui se crée au bout d'un moment parce que les objets absorbent l'énergie des gens et finissent par prendre vie, deviennent un esprit à part entière. Donc là, c'est son sextoy en fait qui devient un esprit à part entière. L'esprit, évidemment, c'est une meuf méga bonne, hein, on va pas se mentir.
Bien entendu.
Mais j'ai trouvé que c'était assez, assez cool de... Enfin, j'ai trouvé que... C'est vrai, cette histoire de dilemme, je sais pas si c'est vraiment ce qui réunit toutes les nouvelles, mais en tout cas, le côté contemporain, il est assez présent dans toutes les nouvelles, et ça, c'est assez agréable.
Et si vous vous demandez pourquoi le titre Redhead X Brunette, c'est juste parce que, et c'est la dernière histoire, ça m'a saoulée, j'ai fait m'émetter là au moins pour la première histoire, qu'on comprenne de quoi ça parle. En gros, c'est juste un gars, je crois que c'était ce que je disais justement, le gars qui sort avec, bon, soit l'une, soit l'autre, soit avec la rousse, mais elle est trop bonne, mais elle a des petits seins, soit avec la meilleure amie qui est brune, mais putain, elle a des gros seins, j'ai trop envie de ken avec elle. Oh, c'est vraiment du classico-classique de l'infidélité. Voilà, juste le titre, c'est pour une petite histoire courte comme ça. Et c'est pas la plus mémorable du lot, je trouve. Je suis plus sur l'histoire du réveil qui m'a beaucoup plu comme toi. Et sinon, sur le dessin, de manière générale, c'est le dessin... Alors, le dessin est classique ou classique pour du hentai. C'est vraiment parfaitement ce qu'on a l'habitude de voir. Je l'ai pas trouvé transcendant. Tu vois, il a pas une patte comme les deux autres. C'est vraiment ce que vous allez voir de manière générale. C'est pas forcément le dessin qui m'attire le plus. Mais franchement, il fait le taf.
Ouais, franchement, moi j'ai bien aimé. En fait, c'est le hentai un peu classique qu'on attend quand on veut vraiment se branler, hein, pardon pour les termes, mais c'est le hentai bien sale, bien dégoulinant, mais en vrai, bah, on est un petit peu là pour ça aussi. Donc, je trouve qu'il répond parfaitement aux attentes. Il y a vraiment les trucs typiques japonais aussi, avec les espèces de dessins plans de coupe. On voit la pénétration de côté.
Ah oui, les coupes.
Voilà, moi je trouve que c'était quand même assez satisfaisant. C'est vraiment fait pour exciter, c'est très cru. Et bah, j'ai trouvé que ça marche. Après, voilà, y a forcément des nouvelles qui plaisent plus ou moins selon vos affinités et tout. Mais il y a forcément une histoire qui devrait vous plaire si vous êtes assez friand de ce genre de hentai. Et aussi, il y a des petites cartes à l'intérieur.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est les nouvelles sorties de la Musardine, justement, la Musardine qui s'est un petit peu spécialisée dans la distribution et la diffusion de hentai, et qui a sorti deux titres, c'est-à-dire Redhead X Brunette, et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est
Cougar's Chronicle.
Exactement, Cougar's Chronicle, ou si vous avez 30 ans, vous êtes une cougar, bien entendu. Alors, on a fait le choix entre les deux parce qu'on ne pouvait pas forcément faire les deux et on voulait mettre un volume plus en avant et c'est celui-ci qui nous a le plus plu. Mais en effet, il y a une petite offre commerciale, en tout cas un petit bonus si vous achetez l'un de ces deux tomes qui sont des cartes à jouer, entre guillemets, un petit peu comme des cartes Pokémon, mais avec des spécialités hentai, entre guillemets, par exemple, j'en ai sous le coude. C'était vraiment des super belles cartes en surbrillance où vous allez avoir des situations de hentai qu'on peut avoir l'habitude de voir avec des dessins très explicites. Moi, le set que j'ai eu, il y a des pastilles de partout tellement il est explicite. On en postera quelques-unes sur le n'importe qui des un peu censurées à la pastille qui sont très très bien. En tout cas, voilà, vous pouvez les collectionner. Je crois qu'il y a un lot de 24 cartes et c'est franchement une petite offre très très rigolote. Si vous aimez bien le hentai et que vous aimez bien avoir des objets un peu insolites, voilà, n'hésitez pas à prendre l'un de ces deux volumes.
Ouais, en plus, il y a quand même des cartes. Enfin, vraiment, moi, je trouve les cartes à la fois très marrantes et vraiment très jolies en elles-mêmes. Enfin, je veux dire, les cartes holographiques et les cartes un peu gold, là, c'est vraiment un truc de collection assez cool à avoir et assez... assez original, quoi. Pour le coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de truc.
À voir si on peut jouer avec, hein, parce que vraiment, c'est comme des cartes Pokémon et j'ai trop envie d'essayer une partie avec toi, d'essayer de voir comment ça peut marcher, parce que vraiment, j'en ai une, c'est Makoto l'insatiable, et son pouvoir, c'est si je la pose en premier sur le set, bah t'es obligé de l'attaquer en premier. Donc ça protège... Non mais tu vois, c'est que des trucs comme ça, ça me fait vraiment rire. En fait, l'image, c'est une femme qui est en train de se faire une petite double pénétration des familles, qui a l'air très contente de ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des petits cadeaux, des petits bonus comme ça, un peu collector, dans ces deux tomes, donc Cougar Chronicle et Redhead X Brunette, disponible aux éditions de la Musardine.
Cougar Chronicle, pour info, c'est beaucoup plus soft que, oui, que Redhead Brunette. C'est un peu plus gentil, quoi, disons.
Bah, c'est un peu plus gentil. Bah, en gros, pour résumer, vous allez suivre deux sœurs de 30 ans. Enfin, il y en a une qui divorce de son mari parce que son mari couche avec la secrétaire, voilà, qui est beaucoup plus jeune. Et à 30 ans, bah, vous êtes une cougar, apparemment. Donc, elle s'installe avec sa sœur et elle tombe sur un jeune homme, un jeune livreur, étudiant, qui va raviver leur désir sexuel. Et il va se passer plein de choses, plein d'histoires d'amour, plein de
petites choses.
En vrai, c'est pas si mal. L'histoire est vraiment cool. Et on a aussi choisi Redhead X Brunette parce que on voulait également des short stories. Vous avez dans le lot des trois mangas qu'on vous a présentés, deux histoires longues et un recueil de shorts. Comme ça, c'est un peu équilibré. Vous avez à boire, à manger. Vous pouvez avoir la crémière, le cul de la crémière et tout ce qui va avec. Et on va passer à la seconde partie, la partie plus profonde de l'émission, avec comme première question, on en est où aujourd'hui en 2024 en France avec le hentai? Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce qu'on a par exemple des influenceurs ou des influenceuses qui en parlent? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand on est fan de culture nippone, est plutôt répandu. En tout cas, on sait où aller chercher les scans, wink wink. Mais c'est vrai qu'en France, la Musardine, c'est un peu l'une des premières maisons d'édition à diffuser du hentai. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France. Donc, quid de l'image du hentai aujourd'hui, en 2024, en France?
Je pense qu'elle va de pair avec l'évolution de l'image du manga de manière générale, qui est quand même plus forte aujourd'hui en France. On sait que c'est un marché qui se porte très bien, que ça se vend très bien. Alors évidemment, ce qui se vend très bien, c'est One Piece et c'est pas forcément Redhead X Brunette ou Elven Bride. Mais en tout cas, c'est quand même un marché qui se porte plutôt bien. Et en termes de visibilité, moi, ce que j'ai noté en tout cas, c'est que quand je suis allée à la Japan Expo l'année dernière, bah, y avait des stands en fait de hentai. Alors il n'y avait pas la Musardine avec la collection Seiko, mais il y avait Nihaniba, il y avait Hot Manga. Donc on est quand même sur du pur hentai en fait. On n'est même pas que sur du ecchi ou des trucs gentiment érotiques. On est vraiment sur des trucs bien pornographiques. Alors en général, les stands sont fermés, les moins de 18 ans ne peuvent pas rentrer dedans. En fait, souvent c'est bâché, mais je crois que dans les trucs très fermés, tu peux vraiment un petit peu feuilleter. En tout cas, il y a quand même des maisons d'édition qui s'installent dans ces salons vraiment ouverts au très grand public. Et c'était le site ActuABD qui avait fait une review en 2022 et en 2023 sur justement la place du hentai dans les salons, et qui disait que bah, ça se portait plutôt bien, en tout cas en termes de visibilité, il y en avait un petit peu plus. Et qu'en termes de public, il y avait autant d'hommes que de femmes qui allaient dans ces stands. Qu'en termes de genre, c'était finalement pas si fermé que ça aux hommes. C'était assez ouvert finalement. Ça, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que les éditeurs jouent un petit peu sur les nouveautés. Enfin, ils sont là, communiquent sur leur présence, sur les nouveautés, voire des fois, ils profitent du salon pour se dire on va lancer la réédition d'un manga qui était, enfin d'un hentai qui était en pénurie depuis plusieurs années à ce moment-là pour marquer le coup, quoi. Donc il y a vraiment une stratégie qui est derrière. Des fois ils ajoutent des goodies aussi pour l'achat de je sais pas combien de hentai. Enfin, en tout cas le hentai est là et j'ai l'impression qu'il de plus en plus il prend une place visible et on le voit, quoi.
Mais en plus c'est une place qui me semble tout à fait logique. Par exemple en convention, là où déjà le manga est sexuel. Je ne veux rien entendre, la moitié des héroïnes sont à poil en string, sont souvent très jeunes, on citait One Piece en introduction, c'est pas pour rien. Après, c'est pas quelque chose qui dérange, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien ça. Mais c'est vrai que quand tu vas en convention, tu vois des mangas avec des meufs à moitié à poil, tu vois des figurines, très jolies, certes, mais avec des meufs à moitié à poil, tu vas voir suspendus en haut des stands les Dakimakura. Qu'est-ce que les Dakimakura? Ce sont des thés de traversin avec des personnages... Voilà, complètement à poil. Et en fait, le principe de ces oreillers, c'est que vous frottiez contre. En gros, c'est vraiment des objets masturbatoires où tu vas mettre la tête d'oreiller de ton personnage préféré, féminin ou masculin, et tu te frottes avec. Il y a même des Dakimakura qui sont vraiment équipés de trous pour faire des choses dedans, que je ne citerai pas. Mais en tout cas, c'est vraiment des lieux où la culture du sexe, elle est cachée, mais elle est quand même présente. Parce que le Japon, c'est un pays qui a une culture... qui cache la sexualité, mais en même temps vous mettez des meufs à poil absolument partout et joue vraiment sur un érotique qui est très présent. Donc pour moi, ça semble faire sens qu'on parlent enfin du hentai, qu'on diffuse enfin du hentai et qu'on puisse acheter du hentai. Pour moi, c'était un peu la boucle est bouclée. Et je vois de plus en plus, en tout cas, moi je me renseigne beaucoup sur les parutions en France parce que j'ai envie d'avoir une bibliothèque de hentai, moi j'aime bien, j'aime bien pouvoir les lire, c'est des beaux objets, je pense que je dois en avoir allez, une petite dizaine maintenant. Et j'étais toujours frustrée en fait de devoir les lire de manière, comment dire, les lire de manière illégale sur Internet, parce que oui, c'est illégal quand vous lisez des scans sur Internet, spoiler si vous ne saviez pas en 2024. Et je suis contente de pouvoir les acheter aussi pour soutenir l'auteur. Parce que c'est important, il y en a qui font vraiment un travail de dingue, il y en a pour qui c'est la profession, même s'ils passent beaucoup par des sites de scan, c'est important de soutenir les auteurs, c'est important d'acheter les livres. Et tu vois, par exemple, des livres comme Evenbride, bah, je suis trop contente, je connais cet artiste, c'est des gens qui sont très actifs sur Internet, sur Twitter, etc. C'est un moyen de les soutenir, et je trouve ça enfin bien qu'en France, on a des BD de cul depuis 50 ans, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des hentai finalement?
Et en termes de visibilité, on a aussi quand même un petit peu des gens qui vont en parler sur les réseaux sociaux, parce que des influenceurs manga, il y en a plein. Mais qui vont parler des licences bah, grand public ou pas grand public forcément, mais en tout cas qui vont se spécialiser dans les trucs hors pornographiques. On sait que c'est compliqué de parler porno, enfin nous-mêmes on en parle sur internet et on sait que c'est compliqué en termes de visibilité. Donc pour ce qui va être hentai, bah, c'est pas forcément connu les influenceurs qui parlent de ça, mais ils existent et moi j'avoue que je ne le savais pas avant de faire cette émission et de faire mes recherches. Notamment deux influenceurs qui sont les plus forts là-dessus. Erwan Manga qui parle de hentai depuis assez longtemps, j'ai l'impression. Il a quand même, en termes de chiffres, 28 000 followers sur Twitter, 280 000 sur TikTok et 102 000 sur Instagram. Donc on n'est pas sur un petit influenceur, c'est vraiment un truc quand même assez gros. Enfin, moi, je l'imaginais quand même, en termes de niche et de communauté, beaucoup plus bas que 280 000 sur TikTok. Et donc en fait, il va faire bah, juste des reviews de hentai en vidéo. Alors évidemment, la difficulté, c'est que bah, on parle de hentai, mais on ne peut pas montrer des choses parce que les applications... telles qu'elles sont construites font qu'elles censurent absolument tout ce qui est sexuel. Ça va être compliqué en termes de montrer des images, mais ils arrivent à en parler et ils arrivent à avoir des gens, enfin à faire des recommandations. Les gens sont à l'écoute, ils sont en demande aussi de conseils. Donc en vrai, je trouve que c'est trop bien de voir un peu émerger des influenceurs de ce genre-là, de cette catégorie-là. Et même pour moi, en fait, des fois, je me dis en vrai, moi, c'est un univers que je connais moins bien que toi, Jade. Du coup, j'aime bien avoir des gens qui peuvent me donner des infos sur des hentai et ce genre de contenu d'influenceurs, bah, c'est vraiment le bon truc pour découvrir des hentai. Et la deuxième influenceuse, c'est Akuma Cat qui, de toute façon, est très pote avec Erwan Manga et c'est pareil, elle est influenceuse sur Twitter et TikTok, elle est un peu plus basse en termes d'influence et de followers, mais elle fait des reviews de plein de hentai et pareil, elle doit forcément faire attention, des fois ça me fait rire parce que sur des TikTok elle monte la couverture mais elle pose stratégiquement ses doigts pour que ça passe et qu'on voit pas les seins ou le sexe, voire des fois elle monte juste le dos ou la tranche parce qu'en fait elle peut vraiment rien cacher tellement c'est trop explicite partout.
Et même de manière générale, on a des streamers aussi qui sont assez connus. Bah, c'est toi qui m'avais fait découvrir ça, Mina, c'est Jill, la streameuse Jill qui parle beaucoup de manga également et qui place de temps en temps, dès qu'elle peut, en fait, les quelques tomes de sa bibliothèque hentai. Si vous la connaissez pas, c'est une super streameuse qui est également la compagne du youtubeur Louis San, qui est spécialisé dans le Japon. Et justement, je trouve ça assez cool que des influenceurs qui ne parlent pas que de hentai, mais qui parlent de manga, n'excluent pas les hentai et en parlent parce que pour moi, ça fait vraiment partie de tout un pan de la culture japonaise, surtout dans le manga, où encore une fois, tout est sexuel et tout est érotique, la plupart du temps. En tout cas, on vous encourage à un petit peu suivre ces différentes personnes qu'on vous a citées si jamais ça vous intéresse et que notre avis, en tout cas les lectures qu'on vous fait, parce que pour le moment on a recommandé que 6 tomes, ne vous suffisent pas. Hein. Ça peut être une bonne manière de vous orienter. Mais c'est cool qu'on ouvre la parole, même si ça reste bridé et même si je pense qu'aujourd'hui, un influenceur ou une influenceuse hentai, c'est impossible. Je ne vois pas comment c'est possible, c'est trop compliqué à l'heure actuelle.
Bah, en tout cas, on a déjà Erwan Manga et Akuma Cat qui sont un peu influenceurs hentai, mais ils sont pas nombreux. Et juste pour revenir sur Jill, je sais plus si elle fait des reviews ou si elle en parle autant, mais je sais qu'elle a fait une vidéo où elle a présenté toute sa mangathèque et elle a évoqué, c'était un instant assez court, elle est pas rentrée dans le détail, mais elle a évoqué qu'elle avait une partie de sa bibliothèque dédiée au hentai. Et c'est con, mais en fait, déjà juste le dire et assumer le truc et dire « bah ouais, écoutez, moi aussi je lis des trucs comme ça », bah rien que ça, en fait, avec un public qui est plus large, qui n'est pas de niche, je trouve que c'est déjà une belle avancée de se dire, bah ouais, en fait, faut pas avoir honte de lire des choses de cul. Pourquoi ce serait honteux? Alors que, comme tu dis, dans One Piece, il y a aussi des meufs à poil. Enfin, là, on rentre dans le vrai à poil, ça peut être kiffant, ça peut être cool, et autant se faire plaisir et ne pas en avoir honte. Donc déjà, juste l'assumer, je trouve que c'est déjà un step important.
Et tu vois, moi, je m'étais posé aussi la question, comme je commence à avoir un bon pan de mes étagères qui commence à contenir du hentai, donc c'est-à-dire, tu vois, des gros boobs sur la tranche, tu ne peux pas les louper, ce n'est pas possible. Mais tu vois, au début, je me disais, oh, je vais les mettre un peu dans un coin, comme ça, si quelqu'un passe. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je suis en mode, je suis même fière de les avoir, je suis même fière. Et parfois, il y a mes potes, quand ils regardent ma bibliothèque, ils prennent et on se pose et on regarde. Il n'y a pas de souci. Et parfois, j'ai des bonnes surprises. Par exemple, mon copain, à un moment, il regarde un petit peu, il me dit j'ai des tomes d'un mangaka qui s'appelle Shindle. On a hésité à le faire pour l'émission, mais peut-être qu'on le gardera pour plus tard. Mais en tout cas, c'est un auteur de hentai qui est extrêmement connu. Je pense que c'est l'un des plus connus à l'international. Et tu sais, il regarde un peu, il me dit oh, t'as Shindle. Je dis mais attends, tu connais? Il me parle de ça. Je fais c'est génial. Et parfois, tu te rends compte que la culture des uns est parfois plus proche de la nôtre qu'on ne le pense. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais qu'en tout cas, les hentai, il ne faut pas en avoir honte. C'est aussi des objets artistiques. Moi, je trouve que c'est quand même un savoir-faire de dessiner les corps comme ça, parce que la plupart du temps, l'anatomie, elle est vraiment hyper intéressante. Comment tu vas dessiner des fluides, comment tu vas dessiner des courbes, comment tu vas dessiner différents types de corps, des interactions avec quelqu'un. Je trouve qu'il faut quand même avoir un sacré niveau en hentai pour faire du bon hentai, et qu'il faut reconnaître ça aussi comme un élément artistique à part entière. En tout cas, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je lis du hentai aussi. C'est parce que artistiquement, je trouve ça dingue, et c'est trop bien de voir des corps comme ça, des corps qu'on verra jamais comme ça ailleurs que dans le hentai. Et c'est trop trop bien d'avoir une bibliothèque, donc n'ayez pas honte, sortez vos hentai, et n'hésitez pas à dire que vous aimez ça. Peut-être pas à mamie et à vos collègues, mais en tout cas, n'ayez pas honte, c'est quand même cool le hentai.
Justement, Jade, pour avoir une bibliothèque, comment est-ce qu'on choisit les hentai? Comment est-ce qu'on les achète? Où on les achète et comment on les choisit en fait?
Bah en fait, c'est compliqué parce que, comme on le disait, là on commence à avoir des influenceurs et des influenceuses qui en parlent, donc n'hésitez pas à suivre les noms qu'on a cités si jamais le sujet vous intéresse, comme ça, ça vous permettra de découvrir différents hentai. Vous pouvez vous abonner au n'importe qui grâce à notre Insta @n'importe qui pour pouvoir avoir des bonnes recommandations, parce qu'on peut en faire aussi. Mais de manière générale, en fait, le hentai, c'est quelque chose qui est tellement nouveau. En fait, c'est nouveau et pas nouveau à la fois, mais en tout cas, ça commence un peu à se démocratiser aujourd'hui en 2024. Que moi je conseille de manière générale, si vous vous intéressez, regardez le catalogue de la Musardine. Parce que l'un des problèmes que je rencontre dans le hentai quand j'en cherche de manière générale, ça va être de tomber sur ce qu'on appelle du lolicon. Le lolicon en fait c'est un sous-type, un sous-genre de hentai, comme par exemple vous avez le yaoi qui sont des rapports entre hommes gays, le yuri qui sont des rapports entre femmes gays. Et vous allez avoir par exemple dans ces sous-tranches, il y a le shotacon et le lolicon qui sont en gros un genre où vous allez avoir des adultes qui vont avoir des rapports sexuels avec des enfants. Et quand je dis des enfants, ça peut être des enfants de 5 ou 6 ans. Et ces enfants, on les dépeint comme des objets de fantasme, comme des enfants qui ont déjà un appétit sexuel à 5 ou 6 ans. Et c'est quelque chose de très problématique et je m'en suis particulièrement rendu compte quand j'ai été au Japon en septembre dernier à Tokyo. Pour la première fois de ma vie, j'étais très contente et l'un de mes objectifs, c'était quoi? C'était de m'acheter du hentai parce que bon, quoi de mieux que le Japon, dans des bibliothèques qui sont remplies, mais quand je vous dis ça, même les rayons des Fnac, c'est rien, remplis de hentai pour me ramener un petit souvenir. Et je me souviens avoir un peu erré, je connaissais un peu mes classiques, mais tu vois, il y a tellement de trucs, vraiment, ça dégueulait des étagères. Je prends un premier hentai, enfant, je ferme, je passe à autre chose. Je prends un deuxième, enfant, je fais ok, je suis pas dans le bon rayon, je change de rayon, je prends un manga, des enfants, je ferme, je me dis ok, il y a un problème, je change de librairie, j'ouvre un manga dans une autre librairie, enfant, je referme, je fais ok, définitivement il y a un problème, et ce problème c'est le lolicon, et c'est très présent au Japon particulièrement, là où en France vous permettre de passer par la Musardine, vous allez avoir un tri, vous allez pas vous retrouver avec du lolicon, du shotacon, et ça c'est hyper précieux.
Mais c'est interdit non en France?
Ouais, c'est interdit. C'est interdit aux États-Unis et en France, mais c'est pas interdit au Japon. Et en fait, je pensais que ça avait été vraiment très, comment dire, structuré et encadré au Japon. Eh bien, que nenni, je me fourvoyais. C'est très très présent. Et j'ai même été dans des sex shops au Japon où, en gros, vous pouvez avoir des sortes de fioles qui contiennent des odeurs de petits garçons, de petites filles. Bref, c'est dégueulasse. Je ne pousserai pas.
Non, dans tous les cas, en fait, vu que c'est interdit en France, on est quand même serein. Quand on veut acheter un manga, un hentai en France, on est sûr de ne pas tomber sur des hentai de ce type-là.
C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des éditeurs qui vont vraiment diffuser du hentai. Ceux qui font ça à grande échelle, c'est principalement la Musardine qui est revendeur de beaucoup d'éditions qui achètent les droits pour les vendre en France. Et je pense qu'encore une fois, c'est un challenge de faire ça parce que ça ne doit pas non plus se vendre des milliers et des cents, très clairement. Mais les droits coûtent extrêmement cher. Par exemple, on parlait avec l'éditrice de la Musardine qui nous parlait de potentiellement racheter les droits du manga Ecchi Step Up Love Story. Donc si vous ne savez pas, il y a tout un épisode sur ce super manga qui existe. Mais c'est un tome qui, enfin c'est une série qui n'est pas terminée, il y a une cinquantaine de tomes et acheter des droits de manga, on n'y pense pas, mais ça coûte la peau du cul. Donc c'est vrai que dirigez-vous vers le catalogue de diffusion de la Musardine, vous êtes sûr de tomber sur du contenu plutôt safe. Après, il y a toujours une petite part de viol, parfois, qui peut ressortir, on préfère vous prévenir. Mais au moins, vous n'allez pas tomber sur du contenu avec de la pédopornographie, et je trouve ça super important.
Pour rester sur la Musardine, d'ailleurs, il y a aussi l'option, si vous êtes à Paris ou de passage à Paris, la librairie. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs endroits pour acheter du hentai. Typiquement, moi, j'ai jamais acheté de hentai en ligne. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir feuilleter le livre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des trucs un petit peu érotico-porno, genre à la Fnac. Mais en fait, comme c'est du moins 18, et c'est un magasin qui n'est pas du tout dédié, uniquement dédié au moins 18, et ben du coup, à la Fnac, ça va être sous plastique. Donc aucun moyen de feuilleter le bouquin. En revanche, dans une librairie érotique, type la Musardine, ou en tout cas c'est là que j'ai toujours acheté mes hentai, et ben vous pouvez en fait feuilleter le hentai. Et moi je trouve que c'est hyper important de savoir à quoi ressemble l'intérieur, le style du dessin, de voir en fait si en feuilletant 3-4 pages ça vous excite ou en tout cas ça répond à vos attentes. Parce que le truc aussi que je trouve un petit peu pas très au point dans les hentai en France, c'est que je trouve les résumés en quatrième de couve parfois assez mauvaises, et en tout cas je trouve qu'elles ne correspondent pas à ce qu'il y a à l'intérieur du hentai. Quand c'est des histoires complètes, c'est pas un problème parce que bah, le résumé est fidèle au truc. Mais quand c'est des recueils de nouvelles, souvent les résumés, ils s'attardent sur une nouvelle et en fait, il a du mal à te... Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé très souvent d'avoir un résumé où j'étais en mode « Oh, c'est incroyable !» Et en fait, il n'y a qu'une nouvelle qui correspond à ce style de résumé et le reste, bah, pas du tout. Donc en fait, le truc ne correspond pas trop à ce avec quoi tu as lu. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool d'aller directement en librairie pour pouvoir le feuilleter. Et sinon, bah, toujours sur la Musardine, y a pas que, mais c'est quand même eux qui ont une place très très importante et qui sont d'assez bons conseils en plus en termes de contenu érotique. C'est le site BD Adulte qui est tenu par la Musardine et qui en fait est dédié à tous les titres érotiques porno qui sortent en France, donc tout éditeur confondu pour le coup. On peut avoir du Nyodiba, du Hot Manga, il y a du Hentai, mais il y a aussi de la BD. Et du coup, je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec Internet, donc là, tu as ce site développé par la Musardine, mais il y a aussi le site comme Manga News, par exemple, qui est un site qui va d'actualité autour de la culture japonaise, sur les animés, sur les mangas, mais ils parlent aussi de hentai. On pourrait croire que non, parce que c'est un site très grand public, mais en fait, ils ont une partie hentai, avec parfois des critiques aussi, de rédacteurs du site. Donc on peut avoir un avis un petit peu détaillé sur à quoi ressemble le hentai, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, est-ce que ça peut vous plaire ou pas. Et je trouve que du coup, bah, en fait, t'as quand même plein de prescripteurs aujourd'hui, et grâce à Internet, en fait, t'as plein de sites, de communautés qui vont pouvoir un petit peu te guider dans tes choix pour faire ta petite sélection. En plus de tout à l'heure, tout ce qu'on a cité en termes, par exemple, d'influenceurs aussi qui commencent un petit peu à popper et à prendre la parole pour parler de hentai.
Et on va se poser une dernière question pour clore cette seconde partie. Les hentai versus les BD de cul. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, dans le n'importe cul, on a surtout parlé de hentai, mais on n'a jamais analysé de BD de cul. L'idée nous a traversé la tête parce qu'on a quand même pas mal d'exemples en France. Et la BD de cul, enfin la BD érotico-pornographique, est bien plus répandue. C'est ce qu'on va souvent appeler le porno à papa. Moi, je suis déjà tombée plus souvent sur des BD franco-belges ou américaines, des comics un petit peu pornographiques. Et essayons de trancher un petit peu, voir la différence, parce que moi, je vais donner tout de suite mon avis, je préfère le hentai, vraiment par rapport à la BD de cul.
Moi, il n'y a pas photo. Hein. Je préfère mille fois le hentai. En fait, les BD érotiques, c'est, ouais, comme tu dis, c'est des trucs un peu franco-belges. Je trouve que c'est un peu dépassé et je trouve qu'il n'y a rien de moderne. Il y a des trucs modernes, évidemment, mais ce n'est pas ce qui se vend et du coup, ce n'est pas ce qu'on voit sur les tables des libraires, ce qu'on va voir à la Fnac, quoi. On va nous vendre des trucs un petit peu vieillots. Et genre, je suis allée faire un tour des meilleures ventes BD érotiques à la Fnac pour voir un petit peu ce que c'était sur le site de la Fnac. Et en fait, les premières BD les plus vendues, genre le top 10 des BD érotiques vendues à la Fnac, en fait, c'est les BD d'auteurs italiens, tu sais, mais un peu à l'ancienne, tu vois. C'est... Mm-hmm. J'ai noté Casotto, Milo Manara, Serpieri. Et en fait, c'est des gars, ils ont tous autour de 80 ans, tu vois. C'est pas moche, c'est joli. Mais c'est pas moderne du tout et on voit que ça s'adresse à un public très masculin déjà et très âgé.
Et en France, c'est d'autant plus compliqué parce que, alors je tiens quand même à le dire, on a des très bons auteurs de science-fiction érotique. Hugo Bienvenue, foncé, et surtout l'excellent Alexis Jarret, donc son pseudo sur Instagram c'est Janevski, qui a sorti la BD Sixella et qui sort plein d'autres BD. C'est des BD absolument fantastique. Faut qu'on en parle de toute façon dans un épisode de N'importe cul. Oui. Il fait de l'érotique science-fiction absolument splendide, tant sur le fond que la forme. Bref, vous pouvez foncer si vous voulez deux auteurs franco-belges qui font en tout cas de très bonnes BD. Mais en France, on a aussi cette réputation de... Alors, il y a les éditions Glénat qui ont sorti une collection de BD érotiques qui a été lancée par la directrice de collection qui est Céline Tran, alias Katsuni, qui s'appelle Pop and Porn. C'était quoi exactement le nom ? Maintenant, elle a arrêté, mais j'ai oublié le nom.
Ouais, Porn and Pop, je sais plus.
Porn and Pop, bref. En tout cas, c'est une collection qui s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme... première BD pour lancer cette connexion. Là, ils ont lancé Petit Paul de Bastien Vives, qui est une personne que je trouve hautement problématique. Donc c'est vrai que vous m'avez offert, toi et Amandine qui a fait l'épisode avec sur les sextoys, etc. Vous m'avez offert plusieurs BD de la collection et c'est vrai que je les trouve pas inintéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangée. Particulièrement, je me souviens que je crois que c'est Amandine qui m'a offert l'un des tomes qui parle justement, je crois que c'est Gaijin le nom qui se passe dans la culture japonaise. Et justement, bah, je vais faire un parallèle parfait avec ça, entre la BD Gaijin qui se passe en fait vraiment au Japon, qui se veut un peu imprégnée de culture japonaise et le hentai. Gaijin est hautement problématique sur plein de points, que ce soit la culture du viol, que ce soit la vision justement des japonaises dans l'érotique occidentale, on va dire ça comme ça. Et à côté, t'as un hentai où c'est une culture apparentaire. En fait, tu baignes dans cette culture et ça fait partie d'un imaginaire purement japonais que tu peux pas reproduire. Et vraiment, Gaijin, ça m'a mis mal. Enfin, franchement, je sais pas quoi faire de cette BD. Je vous remercie de me l'avoir offert, mais j'ai pas envie de la garder dans ma bibliothèque. Et c'est hautement problématique. Et tu vois, en fait, que le regard occidental qu'on peut avoir sur justement la culture japonaise et notre manière de voir l'érotique à la japonaise, il est très hautement problématique. Il est complètement différent du hentai.
J'ai l'impression, en tout cas, que dès qu'on édite une BD érotique en France, on part du principe que c'est des vieux mecs qui vont le lire. Donc du coup, on se retrouve avec des trucs qui n'évoluent pas. Et effectivement, il y a des trucs très modernes et très sympas, comme Beau comme Dieu de d'Hugo Bienvenu, Lilith de Janevski. J'ai jamais lu, mais il y a aussi La Comtesse de Haute Picot, qui marche assez bien, avec des maisons d'édition comme BDQ, Les Requins Marteaux, donc... Il existe des trucs, mais bon, déjà, c'est pas des trucs qui marchent beaucoup en termes de vente, qui est très rentable. Mais en plus, on est sur des thématiques assez cool, tu vois. On a du fantastique, on a des trucs avec des robots, enfin, c'est hyper original. Mais j'ai l'impression que par principe, en fait, j'ai l'impression que les maisons d'édition partent du principe qu'il n'y a que les vieux mecs qui lisent de la BD érotique. Donc même si on édite des choses nouvelles, ben, on tombe dans ce cercle vicieux un peu de l'image du cul, mais à l'ancienne, en fait, de ce qui était à la mode il y a plusieurs décennies. Et du coup, ouais, bah, ça m'étonne pas que l'image du Japon, des japonaises, des japonais, du coup, soit pas hyper au top et hyper moderne. Mais du coup, je trouve ça dommage parce qu'on voit avec le hentai qu'il y a un public qui est là. Alors, on n'a pas de chiffres très détaillés sur le public du hentai en termes genre de quel âge ont-il, mais on sait que déjà, il y a pas mal d'hommes, mais aussi des femmes qui en lisent. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur un public mille fois plus jeune que la BD érotique.
Et surtout, moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, on n'est pas contre l'illustration érotique. C'est par exemple, quand je regarde souvent sur Instagram, sur n'importe qui, on suit beaucoup de comptes d'illustrateurs et d'illustratrices qui font de l'érotique, voire du porno, et ça marche trop bien. Vous voyez qu'il y a plein de jeunes personnes qui suivent ça, des gens de notre génération, on va dire un peu les 18-35 ans, on va dire ça grosso merdo. Mais que vraiment, quand on part sur de la BD et de la fiction, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui achète, il n'y a plus personne qui a ça. Mais l'illustration, vraiment, il n'y a aucun souci. Et ça m'étonne toujours de voir des comptes, mais de gens talentueux, hein, c'est vraiment pas la question. Des comptes qui ont des centaines de milliers de followers, quand derrière, personne n'achète de la littérature érotique ou pornographique qui est aussi explicite que ce qu'ils suivent sur Instagram. Ça me surprendra toujours.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Peut-être que les gens n'ont pas encore pris pour habitude de payer pour du porno, en fait. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là de... on est aussi une génération qui a grandi avec le porno et du porno gratuit. Et en fait, se dire « je vais aller dépenser des sous pour m'exciter », je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas rentré vraiment dans les mœurs, qui n'est pas rentré dans notre culture. Que, je pense, les Japonais, par contre, sont habitués depuis plus longtemps à acheter des mangas. Enfin, des hentai, plutôt. Donc je pense qu'il y a cet aspect aussi de payer... Et bah typiquement, moi, tu vois, j'avais jamais acheté de trucs... j'avais jamais acheté de hentai avant l'émission sur l'hentai, quoi. Donc finalement, je pense qu'il y a un truc qui est juste pas spontané. C'est pas encore rentré dans la culture de se dire « Tiens, je vais acheter ça, ça a l'air excitant, ça va peut-être me plaire. » Je pense que c'est une question de temps, d'éducation, et tout ce qui est en train d'être fait autour du hentai en termes de communication et de vente, ça pousse dans le bon sens. Maintenant, j'aimerais bien que... On est un petit peu ça en BD avec des auteurs un peu plus jeunes, voire des autrices aussi, pour avoir une autre vision de la sexualité, c'est toujours plus intéressant. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça se découle aussi du côté de la BD, je pense.
Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ?
Oui, oui, les hentai, c'est très excitant. Il y a quelques problèmes de temps en temps de consentement, on peut pas y échapper malheureusement, c'est, des fois c'est un petit peu agaçant de se dire « Tain, c'est trop bien, viol !» Ah non, fais chier, ça te coupe un petit peu dans ton délire. Mais en tout cas, il y a vraiment des... Je trouve que la sélection de cette année est très très bonne. Voilà, qu'on veut du truc bien sale, bien dégoulinant avec Red Dead et X Brunette, c'est parfait. Qu'on veut du truc du fantastique, enfin trop contente. Elven Bride, je pense que c'est l'un de mes préférés. Je pense que celui que j'ai moins aimé, c'est peut-être Tokyo Confidential, parce qu'il est plus soft, un peu plus à l'ancienne dans le dessin. Mais de bref, ouais, je dirais Elven Bride et Red Dead X Brunette. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ?
Eh bien oui, moi le hentai, ça m'a toujours excité. Ça fait partie de mes meilleurs moments de branlette, hein, autant vous dire. Et je me rends compte, en fait, avec cette sélection, que comme on a deux tomes, en fait, qui sont des fictions, vraiment des fictions avec des lores, avec une histoire à suivre, et on a un tome avec de recueil avec de la short story... Et eh bien, je me rends compte que je suis très excitée par le salon. Ah, moi, Red Dead X Brunette, ça a été efficace à 100%. Première histoire, j'ai tout lâché. Alors, on va resoulever la question de... C'est pas pratique de se masturber avec un livre. On va pas se mentir que le scan, c'est quand même plus efficace. Mais voilà, j'ai mes petits moments de plaisir et c'était trop trop bien. Et je préfère le sale. J'aimais bien Red Dead X Brunette. Je me souviens pas avoir vu de problème de consentement. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais j'ai pas un truc qui me revient en tête particulièrement sur du pseudo viol érotique. En tout cas, c'était bien Ardos, mais il y avait pas de viol pseudo érotique, il me semble. J'espère pas me tromper si vous êtes intéressé par le volume et que ça peut être un frein pour vous. Mais moi, 100% efficacité, première histoire, c'était bingo, c'était droit au but sur les mains. Donc j'étais très très contente, comme tu dis, très très bonne sélection cette année. J'ai hâte de voir la sélection l'année prochaine, parce que la Musardine sort vraiment des volumes quasiment tous les mois, et je pense qu'on va surveiller d'ici un mois, on reprendra un classique, on reprendra des recueils, on refera ça, parce que franchement, c'est fantastique. Et j'espère toujours, Mina, te faire regarder des animés, parce que j'ai un animé que je veux absolument te faire regarder. On va pousser l'expérience un peu plus loin, on va regarder des séries, des OAV d'Entai. Donc voilà, restez connectés. Si vous voulez des conseils, je pense qu'on redonnera un petit peu les noms de temps en temps en story. On va essayer d'être un peu plus accurate sur ce qu'on lit, ce qu'on peut conseiller. On vous conseillera aussi pas mal d'auteurs qui sont vraiment des valeurs sûres, que ce soit Domoho, que ce soit Shindol. Vraiment des auteurs que vous pouvez y aller sans souci. C'est du beau dessin, c'est des belles histoires, c'est très très bien. Mais en tout cas, on va essayer de répandre ça, nous aussi, à notre petit niveau, de dire que le hentai, c'est pas si mal. Et que bah, ça vaut le coup de se pencher dessus, comme ça vaut le coup de regarder un petit film pornographique de temps en temps, une fois dans l'année, mais c'est pour un copain, c'est pas pour moi.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez fort envie de lancer votre collection de hentai. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.
Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao!
Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici! On va s'en donner à cœur joie!
Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut! Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi?
Hey, ciao!